Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans cet épisode de mon podcast, votre coach web. Je suis votre coach web, je suis ton coach web. Et ce matin, j'espère que vous allez bien, je vais vous faire un épisode qui n'a pas de titre, voilà. C'est quand même le comble, hein, sur un podcast qui est dédié à la création de contenu, qui est dédié aux créateurs de contenu, à ceux qui cherchent des idées, à ceux qui veulent se développer, à ceux qui veulent se montrer, etc. Je démarre cet épisode sans titre. Alors, mon process habituel, c'est que je pars d'une idée. Voilà, j'ai un bout d'idée, je prends quelques notes, je me donne un angle et je donne un titre. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le titre parce que, vois-tu, mon idée du jour, c'était de faire un épisode un peu de motivation, de discours, de motivation. Mon but du jeu, c'est d'arriver à te motiver, te décomplexer, que tu produises du contenu, etc. Mais en fait, j'ai un petit souci, c'est que ma réflexion a commencé sur ce billet le 21 juin, voilà, et nous sommes le 5 juillet, et je pense que c'est le genre d'épisode qui pouvait passer à la trappe. Alors, au lieu de il a maturé longtemps, je devais l'enregistrer il y a une heure, je pensais même que j'allais l'enregistrer. Je l'ai dit sur encore, et puis je l'ai repoussé. Et donc il a tous les critères de l'épisode qui n'aurait pu ne jamais sortir, et pourtant je pense que la réflexion est importante, et comme la réflexion n'est pas terminée, je me permets de poursuivre la réflexion avec toi. Alors, d'où je démarre? Je démarre en fait, parce que il y a encore, en juin, là, quand j'ai commencé à regarder, quand je suis parti d'une idée, c'est que je trouvais des formations qui s'appellent « Find your voice »,« Trouve ta voix ». Et ça, je pense que si tu regardes sur Internet, tu en as trouvé beaucoup des formations. On les trouve en anglais, on trouve des bouquins, etc. Et sauf qu'en fait, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. C'est, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire « Trouve ta voix » Si on parle la voix au sens de parler, si on pense au message que tu veux donner, que tu veux sortir, en fait... La voix, c'est ta voix, tu l'as déjà trouvée, elle est en toi. Et le vrai problème, c'est est-ce que tu oseras l'exprimer? Est-ce que tu oseras vraiment t'exprimer comme tu es réellement, comme tu aurais envie de le faire? Ou est-ce que tu essayes de t'exprimer comme quelqu'un d'autre, parce que tu penses que ça serait mieux de t'exprimer comme quelqu'un d'autre? Ou est-ce que, quelque part... pour moi, le problème n'est pas de trouver sa voix, mais plutôt de trouver comment l'exprimer. Voilà. Et c'était ça le point de départ de mon épisode de blog, de ce podcast, mais qui peut être un épisode de blog, et je reviendrai dessus pourquoi. Il y a une question qui me taraude, c'est est-ce que le toi en ligne est-il différent du toi loin du clavier? Tu vois, est-ce qu'il y a deux toi? Je suis frappé par les gens que je croise assez de temps en temps, vous voyez, ceux qui ont du succès en ligne. Et j'en ai fait venir par exemple dans des cours, etc. Et je trouve que les personnes qui ont le plus de succès sont les personnes qui sont le moins surprenantes quand vous les rencontrez. Pourquoi? Parce que la personne qui te parle avec authenticité, avec son cœur, qui te parle naturellement, que ce soit en podcast, que ce soit en vidéo, que ce soit dans son blog, n'importe où, sur Twitter, sans filtre, etc. Ben, quand tu le croises dans la vraie vie, il se ressemble. Et en fait, les gens qui sont... Moi, je trouve que les gens qui ont le plus de succès, souvent, dans ceux que j'ai croisés, par exemple, je me rappelle une petite étudiante qui a, je sais pas, peut-être 70 000 followers sur Instagram. Quand je l'ai fait venir dans mon cours, elle était juste la même que celle qui parlait tous les jours sur Snapchat, qui parle tous les jours sur Instagram, qui fait ses photos, etc. Mais elle était un poil plus timide, parce que d'un coup, je l'ai mis devant 80 élèves. Mais Je le dis aussi assez régulièrement, j'ai toujours été surpris par ma première rencontre avec, avec Corben. Bon, Corben, il habite pas très loin de la maison, donc c'est quelqu'un que je vois de temps en temps, etc. Et... Mais la première fois que je l'ai croisé, le truc qui m'a surpris, c'est que il était dans un coin, enfin, tranquillement, et, etc. Et puis c'est, c'était dans un espèce de rassemblement web. Ouais. Et puis en fait, je me suis retrouvé assis à la même table que lui, mais même sans savoir que c'était lui. Et en fait, quand vous le voyez sur, quand il, si vous, si tu suis son compte Twitter, tu parles un peu sans filtre, il est pareil en dehors, quoi. C'est assez marrant. Et un jour, je vais te raconter une anecdote parce que je trouve que c'est super intéressant. Il y a eu un jour, France 3 est venu faire avec ma femme, on organisait des apéros web. Et donc, France 3 est venu faire un reportage un jour sur ma femme, ils sont venus à la maison, là je suis sur une journée sur sa vie de community manager. Et le soir, il y avait cet apéro web, etc. Et donc France 3 fait un tour, France 3 Auvergne fait un tour de tous les gens, etc. pour demander l'apéro web, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et ce jour-là, il y avait Corben. Et donc le journaliste a passé un peu de temps à rejeter Corben, et lui demander même pas ce qu'il faisait, pourquoi il venait, etc. Et puis il continue son tour, et puis il arrive vers un autre. Et moi, j'ai assisté à la scène. Il arrive vers un autre. Il dit, mais pourquoi tu viens et tout? Et le gars, il dit, bah, moi je viens parce qu'on croise plein de gens qui créent des trucs, qui créent des blogs, on peut discuter du web, de la création, de ce qu'on fait, etc. Il dit, puis les gens viennent sans prise de tête et on croise tout le monde. Et puis il finit par dire, il dit au journaliste, bah, vous voyez par exemple, là dans la salle, il y a Corben qui est le plus gros blogueur high-tech de France et tout, il y a des milliers de visiteurs à la journée, ce qui est plusieurs dizaines de milliers. Et mais il se prend pas la tête, etc. Et journaliste le regarde, il dit quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Il y a un blogueur connu qui est là et tout. Alors que... Et il dit oui. Il dit bah, il dit mais c'est qui? Et donc le gars, il dit bah, c'est lui là-bas au fond, en montrant le donc Manu, grand, costaud et tout. Et journaliste dit mais je lui ai parlé pendant 10 minutes, je lui ai posé des questions, il m'a rien dit sur le fait qu'il avait autant de lecteurs, etc. Et en fait, c'est exactement ce truc-là, quoi. C'est que il y a des gens quand on les croise. Et moi, souvent, je le croise. Vous voyez, moi, par exemple, je fais des fois, on me propose des missions d'influence. Au sens où, par exemple, l'an prochain, chez j'aurai une mission, il faut que je recrute des influenceurs pour parler d'un sujet. Et quand je vais les choisir, je vais avoir un souci. C'est que soit je vais prendre des gens qui n'ont qu'une audience. Mais je regarde que l'audience, soit je vais prendre des gens qui vont vraiment être eux quand ils vont venir sur le lieu où on va leur proposer. Parce que des gens qui ont une audience mais qui se la pètent, qui se la jouent, etc., ou qui pensent qu'ils ont une audience mais qui sont plus importants que ça parce qu'ils ont 20, 30 000 followers, quelque part ça va pas m'intéresser. Quelqu'un qui vient, qui a moins de followers, mais qui va parler de l'événement, du lieu, avec tout son cœur, etc., et vraiment le partager, lui va m'intéresser. Et en fait, je pense que cette démarche-là, c'est aussi beaucoup ce qui caractérise les créateurs de contenu, ceux qui réussissent, ceux qui se développent bien, etc. Je pense, par exemple, moi je regarde les vidéos de gens, allez je vous donne des gens, Pierre Cross, je dis toujours Casi Nestat, mais parce que c'est, mais prenez quelqu'un comme Pierre Cross. Un gars comme Pierre Cross, quand il fait une vidéo par jour, il est forcément obligé d'être lui-même. Alors bien sûr, il met des gens, il les invite, etc. Mais je pense que il peut pas être foncièrement totalement différent de ce qu'il est réellement du quotidien, parce que quand vous faites si tu fais une vidéo par jour, tu peux pas à un moment donné être tellement différent, quoi. Et je l'ai dit dans plusieurs épisodes. Et moi, c'est un problème que j'ai eu à un moment donné, c'est que j'ai voulu, moi, me séparer en plusieurs. Par exemple, quand j'ai créé mon blog de mec, son compte Twitter, etc. Et puis à côté, j'avais mon blog perso. Et puis un blog coach web, etc. Donc j'avais, puis plus un blog Cyberbounia. Donc j'avais segmenté ces différentes vies, etc. Et en fait, il y a un monde, je les ai segmentés aussi sur Twitter et Instagram. Et là, c'est là où ça a coincé. Parce que sur le blog, c'est facile. Sur Twitter, à la limite, bon, ça devenait plus compliqué. D'ailleurs, sur le blog, je t'invite à faire du blog de niche. Moi, là, je vais lancer dans quelques jours, mais je peux pas t'en parler maintenant, un nouveau blog qui va être très, 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 très niche et qui va être très complémentaire à mon blog de mec, mais Comment je dirais, j'ai envie de le séparer pour une raison que tu comprendras au moment où je vais le lancer, et puis parce qu'il a une, il a une, il sera vraiment positionné dans mon esprit sur une niche particulière. Mais sur Twitter, je me suis retrouvé à un moment donné sur Instagram à me dire, mais le gars qui publie sur mon blog de mec, ou le Bertrand Soulier qui fait du sport, ou le Cyberbounia qui fait de la, qui va avoir un concert à Clermont, c'est le même. Alors pour Cyberbounia, je peux pas. Je garde un compte séparé, mais pour toutes mes autres activités, j'ai déjà dit, j'ai un seul compte Twitter que j'utilise, un seul compte Instagram que j'utilise, dans lequel je vais parler aussi bien de mon sport, que je vais parler des glaces que je mange, que je vais mettre une photo de moi avec une casquette sur la tête, quand j'essaye un chapeau, etc. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un moi. Mais j'ai mis longtemps à le comprendre. Et c'est pas simple, hein, cette histoire... d'assumer de ce qu'on veut raconter, etc. Donc voilà, c'était un peu le mon point de départ de ma réflexion. Et puis dessus il y a d'autres choses qui me viennent. Par exemple, j'ai dit dans un épisode que les gens n'achètent pas des produits ou n'achètent pas forcément quelque chose, mais ils achètent déjà la personne qui le fait, mais ils achètent aussi autre chose. Quand on achète un produit, on achète souvent une meilleure version de soi-même. Disons qu'en fait, en marketing, il y a quelque chose qu'on sait assez bien, c'est qu'il y a les fonctionnalités d'un côté et les bénéfices de l'autre. Et en fait, les gens ne s'intéressent pas trop aux fonctionnalités, ils s'intéressent aux bénéfices. C'est pour ça d'ailleurs que, moi je disais traditionnellement, les sites moches réussissent parce qu'ils apportent un bénéfice. Des sites moches, par exemple Craigslist, on se rappelle tous de Craigslist, la première version, mais le Bon Coin, la première version du Bon Coin était particulièrement moche, et on peut pas dire que le Bon Coin ça soit un site particulièrement beau, mais le service rendu pour les gens qui l'utilisent, il est important, quoi. Et donc quand on réfléchit à ça, si tu le considères pour toi, tu as des fonctionnalités, alors des fonctionnalités, comment dire, tu peux faire des choses, des supports, tu peux le faire de différentes manières, tu sais faire des choses, tu sais peut-être les raconter, ou tu veux les raconter, ou tu cherches comment les raconter, tu as des capacités techniques de faire de la vidéo, de faire du son, de faire du blog, enfin je sais pas, mais la question c'est qu'est-ce que toi, ta voix, ce que tu veux raconter va apporter comme bénéfice aux gens qui vont t'écouter. Qu'est-ce que ça va leur permettre de déclencher chez eux, peut-être, par exemple? Qu'est-ce que ça va leur permettre d'éveiller en eux? Est-ce que ça va les motiver? Voilà. C'est ça la question, le point de motivation que je voulais te dire, en fait, il est là-dedans, quoi. Par exemple, dans les discussions autour des streetcasts ou podcasts, hier encore, j'en ai vu là-dessus, il y a des gens qui mettent un commentaire. Moi j'en ai eu dans ce cas-là, quelqu'un, il y en a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, je me reconnais exactement dans ce cas-là. Ah bah tiens, merci, tu m'as aidé à débloquer un truc. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ?» J'ai vu des discussions, par exemple, sur Discord, quelqu'un qui dit, alors je me rappelle pas les noms, donc je ne vais pas les citer, qui dit « Ah bah tiens, je me reconnais exactement dans tes épisodes. On a la même démarche, on veut faire la même chose, etc. » Et ben, qu'est-ce que c'est ça ? C'est... quand quelqu'un se reconnaît dans ce que vous allez raconter, dans votre cheminement, dans ce que vous allez proposer, quelque part, en fait, il va s'attacher à vos conseils et autres. Et j'ai envie de le dire, je vais reprendre en fait un conseil d'Austin Kleon dans l'histoire. Et Austin Kleon, bon, il a un blog, hein, vous faites austinkleon.com, etc. Il a deux bouquins, Voler comme un artiste et Partager comme un artiste, qui sont des mines d'informations. Et donc il y a une partie là où il revenait sur ces idées-là. Il dit un truc, il donne un conseil, il dit premièrement, émerveillez-vous, et deuxièmement, invitez les autres à partager votre émerveillement. Mais faites entendre votre voix à vous et votre passion, même si vous vous émerveillez peut-être aussi de ce qui n'émerveille pas les autres. D'ailleurs, faites-le, c'est ainsi que vous serez singulier, que vous serez unique et reconnaissable. C'est ça en fait. Il dit pas ce qui est intéressant, c'est qu'il dit pas trouve ta voix, cherche une voix ou que personne d'autre n'a trouvé ou je ne sais pas quoi. Il dit voilà, c'est on est ce qu'on est, on a nos passions, etc. Mais le fait de les exprimer, c'est peut-être ce qui va faire que quelque part on va toucher les gens. Et parfois, et je l'ai dit hein, dans certains épisodes, c'est il y a des gens qui cherchent la grande idée. Mais moi, j'ai envie de vous dire, par exemple, Gary Vaynerchuk. Tout le monde voit Gary Vaynerchuk, son langage, etc. Il y a plein de gens, mais c'est pareil pour Casey Neistat, c'est pareil pour plein de gens, ou Cyprien, ou... Moi, il y a des, une mère de famille, il n'y a pas longtemps, m'a dit que son fils voulait devenir youtubeur, et son modèle de youtubeur, c'est qui? C'est Squeezie, je crois, il me semble. Bon, il y a plein de gens qui veulent devenir Squeezie, en France en tout cas, quoi. Mais en fait, il n'y a pas d'autre Squeezie, quoi. Donc, si ton ambition à toi, c'est de devenir youtubeur, c'est pas parce que Squeezie a des millions d'abonnés sur YouTube que tu dois devenir Squeezie, faire du Squeezie. Alors, au passage, je dis, moi, Squeezie, je le supporte pas. Donc, c'est déjà, son environnement n'est pas le mien, mais en plus, j'aime pas sa manière de s'exprimer, il correspond pas, moi, à ce que j'aime, etc. Mais ça, c'est chacun son truc. Mais, en fait... Même si on parle de jeux vidéo, par exemple, il y a des gens, chacun est fan de jeux vidéo. Je veux dire, je sais pas, par exemple, si t'es fan des jeux de foot sur console Xbox, je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Ma Xbox a pas été démarrée depuis 2 ans. Ou 3. Peut-être même plus. Alors que je jouais des heures et des heures. Mon rêve quand j'étais gamin, c'est de devenir testeur de jeux vidéo. J'ai fait des lettres dans ce sens-là à Ubisoft quand j'étais étudiant. Devenir testeur de jeux vidéo. J'avais pas la fibre pour aller jusqu'au bout, je pense, mais j'ai passé des heures et des heures et c'était un peu mon ambition, vous voyez. Bon, si ta passion c'est de faire donc c'est les jeux de foot sur console ou sur Xbox, ben il y a, je pense, dans ce pays, parce que la France on a une chance d'être un grand pays, mais il y a dans ce monde, etc., si tu le fais en anglais, des millions de gens, ou au moins quelques dizaines de milliers, ou centaines de milliers, qui ont la même passion. Et donc, à partir de là, si tu leur parles à eux avec ta passion à toi, il n'y a pas de raison qu'ils ne t'écoutent pas. Parce que si tu leur apportes quelque chose, si... Il ne faut pas prétendre que tu es un autre. Il ne faut pas dire je suis le champion de FIFA, je ne sais pas quelle année on est, 2017, 2018, etc., si tu n'as pas mis les pieds dessus, etc. Mais si tu... montre ta connaissance des jeux, ta comparaison, si tu sais en parler ou quoi que ce soit, il n'y a pas de raison. À la convention podcast à Paris à laquelle j'ai participé, il y a des gens qui font des podcasts sur tout un tas de sujets, mais qui vont de championnat de monde de moto, du sport, ça peut être de la course à pied, ça peut être des... Il y a des gens qui font des émissions juste sur leur passion, il y en a qui les font sur le ukulélé, etc. Et qui vont rencontrer un public qui va les s'intéresser. Mais... qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand ils le font, ces gens-là? Ils ouvrent leur passion. Et c'est ce que dit Austin Kleon. En fait, il dit, plus vous partagez ouvertement vos passions, plus votre travail touchera les autres. Donc, l'idée dans tout ça, c'est de dire, tu es toi, tu as tes passions, tu as ta manière d'être, ta manière de parler, etc. Et j'en reviens à la roue des compétences, des cinq savoirs, etc. Et quelque part, qu'est-ce qu'il faut, c'est... accepter de la dévoiler, de la partager, etc. Mais même d'ailleurs, ça peut être de dévoiler quelques secrets, etc. Et alors là, je vais finir de citer Austin Kleon, il dit « Les gens adorent que nous leur dévoilions nos secrets et parfois, si nous sommes fuités, ils achètent nos produits pour nous récompenser. Ils achètent nos produits ou nous donnent un euro sur Patreon, enfin un dollar sur Patreon ou sur Tipeee ou je sais pas quoi, ou ils achètent des formations ou j'en sais rien. Peut-être d'ailleurs toi, si j'avais quelque chose à te vendre aujourd'hui, peut-être tu l'achèterais. Au passage, reste connecté, je n'ai rien à te vendre. Hein. Enfin tout de suite aujourd'hui là, peut-être un jour j'aurai des choses à te vendre. Je le dis au passage d'ailleurs parce que je suis en train de tester. J'aimerais bien faire un Patreon. Alors c'est pas pour m'en foutre plein les poches. J'ai testé du Tipeee pour Cyberbounia, j'ai testé du financement de ce type-là qui a moyennement bien marché. Et en fait, la plateforme Patreon, techniquement comme elle fonctionne, je la trouve super intéressante parce qu'elle est d'une puissance remarquable et le développement de Patreon me pose question. Mais pour tester Patreon sans mettre sa propre page, c'est un peu compliqué parce que regarder Patreon de l'extérieur et mettre de l'argent à Patrick Béja, bon, c'est un truc. Mais trouver le ressort qui fera que des gens donnent de l'argent, c'est autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que si j'ai un créateur de contenu qui me dit « je voudrais financer mon contenu par du participatif » et qui me pose la question sur Ulule, j'ai un peu de retour à lui faire. S'il me pose la question sur Tipeee, j'ai quelques retours à lui faire. S'il me pose la question par rapport à Patreon, ben là, je suis un peu coincé. Donc, ne vous étonnez pas, mais ou ne t'étonne pas, mais un jour, je risque de sortir un petit Patreon. Histoire de voir comment ça fonctionne, les fonctionnalités, etc. Mais bon, ça, j'en reparlerai. Ce qui m'amène d'ailleurs à la truc suivant, c'est il y a une notion de cheminement. C'est-à-dire que la pensée ne fait que rebondir en permanence, mais en fait, on ne fait que rebondir en permanence. J'ai envie de reposer la question, qu'est-ce qui fait que vos choix vous amènent là où vous êtes? Quel est le choix qui fait que, par exemple, tu veux lancer un contenu? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de faire ça? Et peut-être c'est pas très clair dans ta tête, parce que peut-être c'est juste une envie de partager des choses, peut-être c'est l'envie de livrer des informations, etc. Par exemple, je vais te dire un truc, par exemple, quand j'ai lancé le streetcast, il y avait la notion de m'entraîner à quelque chose. M'entraîner à faire de l'audio, parce que je pense que c'est un format, et je sais, j'en suis convaincu maintenant, parce que j'en fais tous les jours, que c'est un format que j'aime bien, que j'aime beaucoup, même, je l'adore. Sauf que quand j'ai lancé le streetcast, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire un podcast ensuite, de quel podcast j'allais faire, de quoi j'allais parler. Même dans mon streetcast, je n'avais aucune idée de quoi j'allais parler. Et en fait, il faut accepter ce cheminement, il faut accepter ce passage, etc. Et c'est un cheminement qui est valable pour tout, hein. Moi je lis beaucoup de livres de psychologie positive et les chercheurs par exemple ont démontré qu'on n'atteint pas le bonheur. Une fois qu'on est arrivé à une situation heureuse, il faut la maintenir parce que l'accoutumance fait que même si on maintient cette situation qui nous paraît de bonheur, en fait une fois qu'on y a goûté, le lendemain elle est moins bonne déjà, voyez. Donc le problème c'est qu'en fait, on a un cheminement et que tous les jours, si on parle du bonheur, tous les jours, faut l'entretenir. Mais si on parle d'un blog, tous les jours, faut l'entretenir. Si on parle d'une chaîne YouTube, tous les jours, il faut l'entretenir, etc. Et en fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est de se dire que du fait qu'on va créer tous ces contenus au fur et à mesure, déjà, on ne connaît pas la fin. Si je lance un blog aujourd'hui, si je lance un blog la semaine prochaine, je connais pas la fin du blog. Je sais pas ce qui va lui arriver. L'histoire est en train de s'écrire. Je lisais. Or là, on va partir un peu loin, mais c'est pas grave. Tu vas comprendre mon histoire. Je lis Siddhartha de Hermann Hesse en ce moment. C'est mon livre du soir. Alors, j'en lis 3-4 pages et puis ça me fait mes 10 minutes de lecture parce que bon, des fois, je reviens en arrière pour essayer de tout comprendre. Hermann Hesse est un poète allemand. Et donc Siddhartha, il rencontre Bouddha, quoi, grosso modo, mais je sais pas où il en est, bon, bref. Et il se perd, et la construction du héros est intéressante d'ailleurs, mais parce que l'autre jour je parlais de la construction du héros, et on est exactement dans la même logique. Et en fait, à un moment donné, Siddhartha s'émerveille devant un fleuve, et il se rend compte en fait que le fleuve n'est qu'un. C'est-à-dire que l'eau à l'embouchure, dans la mer, à la montagne, etc., ça reste le même fleuve partout, il n'a pas la même taille, des fois il y a des rochers, des cascades, etc., mais le fleuve reste un fleuve du début à la fin, et en fait il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, mais il y a juste le présent. Et donc il fait un parallèle avec la vie, en disant que finalement la vie n'est que la succession de jours, etc., mais que ce qui nous sépare de ce qu'on était nous enfants, et de ce qu'on est maintenant, et de ce qu'on sera dans quelques années, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste cette histoire de cheminement et de ce qu'on fait. Et ce que j'avais dit dans l'histoire des questions que l'on se pose et des sujets que vous pouvez raconter, c'est que ce sujet-là, en lui-même, est un sujet que tu peux raconter. C'est-à-dire qu'il est assez facile de dire « Aujourd'hui, je démarre quelque chose. Je ne sais pas où ça va, mais j'ai envie de vous embarquer avec vous dans mon histoire. J'ai envie voilà, vous pouvez avoir exactement cette position là mais c'est typiquement la position du blogueur, c'est typiquement la position du vlogueur, c'est typiquement la position de quelqu'un qui va se décider à alors quand je dis blogueur ou vlogueur dans sa position, ça peut être d'ailleurs sur le billet de blog quand on le démarre, Si par exemple vous faites, si tu fais un vlog sur une journée, je me dis le matin, voilà, aujourd'hui je fais un vlog. Je l'ai vécu hein, au mois d'avril et au mois de décembre dernier. Quand je pars au début dans ma journée, je sais ce que je vais vivre. Je sais que je vais aller, par exemple, faire des cours à Vichy, je sais que je peux faire ça, je vais essayer de scénariser un peu ma journée. Mais des fois, il y a un truc qui arrive, je n'ai aucune idée que ça va arriver. Tout peut être chamboulé par quelque chose ou quoi que ce soit. Je ne sais pas jusqu'où ça va, à quel moment ça va. Mais si je fais du vlog, le problème, c'est de le raconter. C'est de prévoir ce qui peut se passer. C'est Kazinestat, il dit un truc, il dit, bon, il y a des changements de situation. Et lui, il est adepte du... Vous voyez, il fait des timelapses. Donc, il filme les nuages au-dessus de l'Hudson à New York, etc. Et puis, il fait un accéléré. Il dit, à quoi ça sert? C'est pas pour émerveiller les gens avec le timelapse. Hein. C'est pas... Il dit pas de mettre un timelapse dedans. Il dit, c'est juste pour marquer le changement temporaire entre deux déplacements. Par exemple, quand moi, entre Clermont et quand je vais de Clermont à Vichy, j'ai trois quarts d'heure de transport, dirons-nous, de train. Dans ma vidéo, j'ai un choix. Je dis, bon, maintenant, je vais prendre le train. Ou alors, je montre le train qui arrive, le déplacement, le timelapse. Et puis, derrière, ensuite, j'arrive à Vichy, je monte Vichy. Je dis ça parce que c'est comme ça que j'ai filmé ma dernière vidéo, que je dois monter, j'espère, tout à l'heure. Ça, c'est une manière de le raconter. Mais pour arriver à le raconter à la fin de la journée du vlog, bah, quelque part, il faut l'avoir déjà pensé, mais il faut l'avoir anticipé. Et il faut avoir fait un peu de stock, voilà. Et souvent, le souci qu'on a quand on fait du contenu, je l'avais dit, hein, c'est qu'il faut, y a une notion d'anticipation, il y a une notion de penser aux choses. Mais il faut accepter que quelque part, c'est un cheminement. Il y a des fois, il faut accepter qu'on pensait avoir une super journée, que ça va être une journée merdique. Si votre truc à vous, c'est de dire « faut que je la raconte », aïe, c'est comment je fais pour la raconter? Et là, on en revient aux techniques de narration, etc. Alors, si on le fait à l'audio, c'est relativement simple, parce qu'à l'audio, je peux vous raconter ma journée tous les soirs. Mais je peux la raconter comme ça, en parlant. Par contre, si je voulais la raconter... Hier, j'écoutais un podcast qui s'appelle... Alors, excusez-moi, mais il faut que je retrouve. Mais parce qu'en plus, je trouve qu'il fait un truc qui est super bien. La diagonale du vide. Voilà, merci. Je dis merci à Cast. La diagonale du vide, c'est du podcast, ça ressemble à du streetcast, mais plus monté, rural, etc. Et je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est des portions de vie. Mais dans son podcast, quand il raconte ça, il vous met des sons, il vous met de l'ambiance, des trucs enregistrés dans un bar, dans une fontaine, des choses comme ça. Mais si à la fin de la journée, je dois publier un podcast avec ça, il faut que j'ai fait mon contenu, il faut que j'ai enregistré des choses, il faut que je stocke des choses. Et ensuite, je vais chercher à les organiser. C'est la grande difficulté du créateur de contenu, c'est cette habitude-là qu'il faut qu'on prenne et qu'on arrive à travailler là-dessus. Pour poursuivre ma réflexion, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de titre à l'origine dans mon billet, mais la difficulté, c'est que parfois, on serait tenté de se dire on va publier des choses que quand on a vraiment quelque chose de terminé. Voilà. Si j'ai envie, je vais faire un truc jusqu'au bout, et une fois qu'il est terminé, je publie. Et en fait, Internet, moi, je distingue deux choses. Il y a du stock et du flux. Du stock, quand je parle de contenu evergreen, c'est tout à fait du stock. C'est-à-dire que c'est des contenus finis, mais qu'on peut mettre à jour au fur et à mesure. Tu sais que j'en suis assez fan, assez adepte de ça, parce que j'en parlais dans l'épisode précédent. Et puis, il y a du flux. Et moi, souvent, je considère que les réseaux sociaux, c'est du flux, quoi. Si je poste une photo de moi en tongs, avec mes chaussettes dans mes tongs, ça reste du flux tant que j'ai pas expliqué où est-ce qu'on peut acheter des chaussettes qui vendent dans des tongs, ce qui est pas du tout mon cas, mais si j'étais au Japon, ça serait plus simple de l'expliquer. Mais c'est vraiment pour l'image de ça. Et donc, il y a des choses qu'il faut accepter dans nos réflexions que... des fois, on pourrait avoir certains contenus qui soient juste un point d'avancement sur notre réflexion. Par exemple, les gens qui font du live sur Facebook ou sur d'autres choses, c'est pour moi, c'est tout à fait ça. C'est ce cheminement-là. C'est quand on démarre un live, on sait où on va aller. Alors, je pense à des lives, par exemple, Techscope, quand il fait son live, quand ils font leur live le matin avec l'actualité de ce qui s'est passé dans la tech. Bien sûr, ils ont leur veille sur Flipboard, ils savent exactement ce qui s'est passé, etc. Mais quelque part, n'importe quelle question de n'importe quelle personne peut faire dévier la discussion. Quand vous commencez à discuter avec quelqu'un, moi je suis intéressé par exemple sur Cybermounia, j'ai un truc que je voudrais bien faire, c'est du podcast interview. C'est un truc que je fais en vidéo, et je voudrais le faire en audio, c'est-à-dire aller voir quelqu'un et puis l'interroger non pas sur son actu, mais un peu sur, et pas sur son parcours. Je voudrais pas faire du Michel Drucker dans son canapé rouge, quoi, sincèrement. Mais trouver un système, en fait, de dire que les gens comprennent, par exemple, pourquoi le maire d'une ville, il prend certaines décisions. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Et mon idée à moi, c'est de me dire, le seul moyen pour qu'il nous l'explique vraiment, c'est qu'il explique un petit peu qui il est vraiment, mais aussi qu'il livre un bout de sa réflexion. Et je pense, mais c'est valable pour un chef d'entreprise, c'est valable pour un créateur de n'importe quoi, notre réflexion n'est jamais terminée. On ne s'arrête jamais de penser. Quand je lance un bout de produit, par exemple, ma femme l'a réfléchi sur les offres du thé qui vont avoir lieu à la rentrée, personne n'est jamais sûr que le produit va plaire à quelqu'un. On peut faire du test produit, on peut tout tester, mais bon, même les fans de la marque, ils vont avoir un avis, les nouveaux clients vont avoir un autre avis, etc. Et il faut accepter en fait que des fois, on a des choses, ça reste embryonnaire. Ce sont des idées qui sont là, mais qui sont en train de se construire. Alors l'autre jour, je l'ai dit, si quand on fait un billet de blog, c'est un billet de blog. Si on fait 10 billets de blog, ça devient une série de 10 billets de blog. Si on fait 100 billets de blog, ça devient peut-être un premier pas vers un bouquin, vers quelque chose de plus constitué. Et c'est pareil pour un podcast. Quand on arrive à la 9e heure de podcast, il y a du contenu dedans, il y a des idées qui évoluent. Et peut-être même en ce moment même, je suis en train de me dire dans ma tête, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui peut être contradictoire avec ce que tu as dit il y a 3-4 jours ou pas? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui... Mais c'est ça la réflexion. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce que on est tous tentés, en fait, de dire, à un moment donné, il faut que je fasse quelque chose qui soit fini, bien chiadé, nickel, carré, posé, etc. Et là, on va arriver sur le moment où on revient sur ce problème de motivation, mais aussi de peur, de procrastination, etc. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore l'idée du streetcast en soi. Moi, le streetcast, quand je le disais hier, quand on parle quand je dis pour moi le streetcast, la différence entre le streetcast et le podcast, c'est ma routine pour le mettre en œuvre. Le podcast, ce matin, voilà, j'ai relu un petit peu mes notes, j'ai complété mes notes parce que j'ai quelques idées qui viennent au fur et à mesure. Puis là encore, j'ai d'autres idées qui viennent. Il y a la moitié de ce que je viens de te raconter qui n'était pas prévu, au passage. Parce que mes idées, elles viennent comme ça et c'est de la réflexion. Le streetcast, pour moi, il est totalement différent. En fait, le streetcast, c'est... hier, par exemple, j'allais chez la kiné. Je ne l'ai pas fait, mais je l'avais fait samedi. Si je me dis, tiens, j'ai envie de raconter quelque chose aux gens, bam, j'appuie sur le bouton, je raconte mon truc, et puis je publie. C'est ce que je voulais faire sur encore.fm. Je suis dans mes thèses de encore.fm. C'est exactement ce que je veux faire. Je me dis, peut-être qu'au lieu de le faire sur du streetcast, des fois, parce que des fois, un épisode du streetcast, il va faire plusieurs minutes, je me dis, tiens, je pourrais faire un petit pastille sur encore.fm, raconter des bouts de trucs comme ça. Alors après, il faut que je vois comment ça va pas se mélanger avec les stories sur Instagram, sur Snapchat. Enfin, bon, je veux pas de Snapchat en ce moment, mais... Ouais, le principe, c'est comment tout évite de se mélanger, quoi. Et comment on arrive à... Qu'est-ce que je dis sur l'un, qu'est-ce que je dis sur l'autre, etc. Bon. J'avais dit, le streetcast, c'était un outil pour m'entraîner, comme Snapchat pour... donc streetcast pour le son, Snapchat pour la vidéo... mais quand je démarre le bouton enregistré du streetcast, je sais pas où je vais, mais du podcast, la preuve c'est que des fois je sais pas tout à fait où je vais jusqu'au bout. Mais hier par exemple, j'ai réécouté des vieux épisodes du streetcast, et en fait ils ne ressemblent pas à ce que je fais maintenant. Le premier, le deuxième ne se ressemblaient déjà pas, le troisième ne ressemblait ni au premier ni au deuxième, l'épisode 20 ne ressemble à rien d'autre que l'épisode 20, et ainsi de suite. Et ça vaut tant dans ce que je dis, le sujet, mais la manière de le dire, la manière de l'enregistrer, la progression technique des fois qu'il pourrait y avoir du fait de publier, le fait que j'ai peut-être trouvé non pas ma voix au sens ce que j'ai envie de dire, mais la manière de le dire, les mots pour le dire, les expressions pour le dire. Il y a un truc, l'autre jour j'ai pensé, hein, je parlais de ma routine d'enregistrer, etc., mon café, etc., et autres. J'ai enregistré d'ailleurs un bout de mon échauffement vocal. De l'autre jour, je publierai ça sur le groupe que j'ai créé sur Facebook. Et à la fin de l'épisode, je me dis, merde, t'as oublié de dire un truc. C'est qu'il y a un truc que vous voyez pas, et que si je filmais en vidéo, ça serait pas possible. C'est des fois je bouge, des fois je m'énerve. Alors je suis assis sur un gros ballon, là, s'il bouge peut-être vous l'entendrez. Je suis assis sur un gros ballon parce que j'ai pas de chaise de bureau, moi j'ai un gros ballon, j'ai jamais mal au dos, je peux passer 10 heures à mon bureau sans avoir mal au dos. Parce que ce gros ballon en fait me travaille ma comment ça s'appelle j'ai perdu le nom, mais vous voyez ce que c'est. Bref, ce gros ballon là. Bon. Et il me permet d'avoir une position qui soit pas avachie dans ma chaise, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Et en fait, des fois, je bouge, je remue, j'ai envie de bouger les bras, etc. Et même le truc qui me plairait, c'est de faire mon épisode là, de podcast, mais debout. Je pense, par exemple, si je l'enregistre debout, tu te rendrais compte tout d'un coup qu'il y aurait une autre dynamique. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le streetcast. C'est-à-dire que, suivant la vitesse à laquelle je marche, suivant le moyen de locomotion que j'utilise, je dis pas la même chose, je dis pas la même manière, etc. Et puis, mais ça, tu l'as compris, je dois faire une confidence aussi. Le podcast, c'est aussi un terrain de réflexion. Des fois, j'ai des idées qui me viennent pendant le streetcast, des fois pendant ce podcast-là, il y a des choses qui viennent. Et puis, comme je le disais, il y a aussi un facteur qui est vrai, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que on apprend mieux soi-même en apprenant aux autres, quel que soit le sujet. C'est là où, par exemple, si vous voulez progresser dans une passion, si ton but à toi, c'est de progresser dans ta passion, j'ai envie de dire, bah, c'est en parlant et en essayant aux autres de donner tes astuces à toi sur ta passion que tu vas progresser un peu plus dans ta passion. Je reprends mon gars qui joue aux jeux vidéo de foot. S'il se lance dans un podcast, et qui fait par exemple un podcast quotidien sur les jeux de foot, sur un podcast ou de la vidéo quotidienne sur les jeux de foot, sur sa console. Au début, c'est facile, mais petit à petit, il va falloir qu'il creuse le sujet. Donc il va creuser, mais en creusant, il apprend des nouveaux trucs, des nouveaux gestes, des nouvelles combines, des nouveaux menus, des trucs qui étaient cachés, des mises à jour, de l'actu sur ce qui se passe à côté, les petites astuces développeurs, les parties qu'il a pu voir en ligne, les parties qu'il a jouées lui-même. Ça devient un sujet infini, cette histoire-là. C'est-à-dire que quand tu creuses ta passion, non seulement tu sais pas jusqu'où tu vas aller au bout de ta passion, mais en plus tu vas creuser, plus ta passion peut être grandissante. Je sais pas, moi, le jour où j'ai acheté un vélo, bon, j'ai pas ouvert un blog sur le vélo, hein, mais le jour où j'ai acheté mon vélo, je me suis rendu compte, alors j'ai acheté un fixie à l'époque, et je me suis rendu compte que à partir de ce moment-là, je me suis à suivre plus de blogs de fixie, à suivre plus de gens qui faisaient du fixie, je me suis mis à faire des courses, à me mettre dans ce domaine-là. Et j'aurais pu faire du podcast sur bricoler son fixie pour qu'il soit plus beau, changer son moyeu arrière, passer du fixie au moyeu automatique parce que finalement le fixie c'est un peu fatigant, enfin bref. Il y a tout un tas de sujets comme ça qu'on peut aborder et on peut creuser. Et en fait, c'est la logique. Pour ça que par exemple, si tu viens me voir en me disant, bah tiens, j'ai une idée de sujet, mais je pense que j'aurais pas assez de contenu pour tenir longtemps, je dis méfiance, mais vraiment méfiance. L'autre jour, j'ai fait l'exercice avec mes étudiants sur un sujet, mais qui peut être, je me rappelle pas le sujet, mais c'était très con. Et si c'était sur, je les ai fait travailler sur un truc qui s'appelle Juicero, je sais pas si vous connaissez, c'est une machine qui fait du jus de fruits pressé, qui est connue parce qu'elle a claqué des millions de dollars en recherche pour faire un presse-agrumes, le Nespresso du jus de fruits, quoi. Mais avec une machine qui coûte très cher, des jus qui coûtent très cher, et donc c'est un gros bide financier, mais la machine est magnifique. Disons que pour presser une orange, ils ont mis une force supérieure à ce qui permettrait de soulever je sais pas combien de camions, enfin, un truc de fou, quoi. Et je leur disais, je les ai fait réfléchir sur les contenus qu'ils pourraient mettre, etc. Et puis une étudiante qui me dit, oui, mais au bout d'un moment, on pourra plus rien raconter là-dessus. Oui, bah non. Parce que si vous travaillez dans cette entreprise, si vous vous passionnez pour l'entreprise, pour ce qu'elle fait, une entreprise qui fait du jus de fruits avec une machine, il y a un sujet, mais l'autre jour, rien qu'en en discutant comme ça, on a trouvé, j'aurais dit, ils étaient 17 dans la salle, j'aurais dit, chacun pourrait trouver une idée différente. Si vous faites 3 vidéos par semaine sur cette idée-là, ça vous tient 2-3 mois. Si vous faites une vidéo par semaine sur cette idée-là, ça vous tient un peu plus longtemps. Si vous creusez au fur et à mesure, si vous répondez aux questions des gens, vous pouvez faire un éditorial avec les 17 idées qu'on vient de trouver, en mixant avec d'autres idées, les réponses aux clients, les FAQ, etc. On est capable de trouver du contenu pour au moins un an. Et au fur et à mesure que vous allez trouver du contenu, je leur ai dit, vous allez en trouver d'autres. Donc pour toi, c'est pareil pour ton contenu. Si le truc qui t'empêche de te lancer, c'est de dire, ouais, mais au bout d'un moment, j'aurai plus d'idées, eh bien j'ai envie de te dire, commence par creuser ta première idée. Il est probable qu'à la fin de ta première idée, tu en aies trouvé une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, etc. Après, je dois aussi dire que il faut aussi se méfier. Et c'est là où la dernière partie de la motivation devait arriver. C'est le coup de pied au cul. Qu'est-ce que j'appelle le coup de pied au cul? Ben, des fois, il faut savoir se mettre un coup de pied au cul. Parce que toutes ces bonnes raisons sur la motivation, etc., des fois, on trouve plein d'excuses pour pas faire les choses. Et certains d'ici vont se reconnaître quand je vais dire ça. Mais moi-même, je peux me reconnaître. En fait, quand vous créez du contenu, n'importe quelle personne qui crée du contenu devrait haïr le vide qu'elle le laisse quand elle ne publie rien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, je me branche sur ma chaîne YouTube hier et je regarde avec horreur, il y a 3 semaines sans vidéo. Alors qu'à une époque, j'ai publié des vidéos tous les jours. À la fin de mon projet de vidéo tous les jours, j'ai dit que j'ai publié 2 à 3 vidéos par semaine. J'ai même fait un calendrier éditorial. Et puis le temps est passé, j'ai pas fait la première, j'ai un peu décalé, j'ai fait d'autres choses, etc. Et là, j'en suis arrivé à 3 semaines. Et ben ça, c'est un coup de pied au cul magistral. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis en train de préparer les contenus. Donc, la semaine dernière, j'ai déjà préparé un bout de contenu pour publier une vidéo que je vais monter cet après-midi. Et hier, j'ai commencé le tournage d'une autre vidéo que j'ai encore continué ce matin pour publier la vidéo. Et donc, cette semaine, normalement, mon objectif, c'est d'avoir 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. Et mon blog de mec, c'est pareil. J'ai exactement le même problème, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais ça fait 10 jours que t'as rien mis, quoi. Et puis, quand je fais mon bilan de ce que j'ai publié sur les dernières semaines, je dis, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Mais pourquoi t'as rien mis? Alors, bien sûr, tu peux m'objecter que je te parle dans le podcast et que l'heure que je te prends pour te parler dans le podcast, plus, disons, si je mets une petite heure de préparation de temps en temps, enfin, ce qu'est le cas, plus après la publication derrière, bah, je pourrais largement faire du contenu sur ma chaîne YouTube, etc. Et là, je suis d'accord, on n'est pas. Quand on est tout seul dans son coin, on n'a pas de l'ubiquité, on n'est pas multiple, etc. On ne peut pas se dupliquer. Et donc, quand je fais ça là tout de suite, je ne peux pas faire de la vidéo, du billet de blog. Quoique, je ne sais pas si peut-être tu l'auras remarqué dans mes partages ou quoi, mais l'épisode de podcast tel qu'il est là va finir sur mon blog perso, bertrandsoulier.com, avec un emballage, une description textuelle, mais même des notes d'émission très longues derrière. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, c'est pour lui donner de la vie, c'est pour lui donner du référencement à cet article. C'est ma manière aussi de lui donner une plus longue vie. Si je le publie, bon, bien sûr, je le publie sur Spreaker. Il va partir ensuite sur iTunes, Google Music, etc. Je pourrais le repartager sur Twitter, sur Facebook, mettre des liens, etc. Mais le contenu, pour l'indexer quelque part, moi ce qui m'intéresserait, c'est aussi que quelqu'un le retrouve dans plusieurs semaines, etc. S'il ne trouve pas mon podcast, j'aimerais au moins qu'il trouve le billet de blog que je suis en train de. Je suis en train de mélanger un peu les trucs. Qu'il trouve cet épisode de podcast. Là, comme ça. Le seul moyen qu'il le trouve, c'est que dedans, sur mon blog ou quelque part, je marque à un moment donné un bout du texte qu'il y a dedans. Certains font la transcription complète. J'ai testé des outils de transcription, etc. C'est un peu le bordel. Hein. Enfin, le résultat final n'est pas bon. J'avais trouvé sur 5euros.com des gens qui peuvent faire de la transcription, mais transcrire une heure tous les jours, moi, ça va me coûter cher à l'histoire. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai mes notes complètes, je les retravaille un petit peu, je publie ça sur le blog. C'est une manière de le référencer, de lui donner une vie plus longue à ce contenu-là. Mais c'est aussi une manière, quelque part, de me dire, je garde pas un blog vide, alors qu'à côté, je publie un contenu en pagaille. C'est pareil, par exemple, sur YouTube, c'est pareil pour plein d'autres choses. En plus, YouTube, il va adorer ça. C'est vrai que un bon critère de classement d'une vidéo YouTube, un YouTuber sympa pour YouTube, c'est pas seulement un YouTuber qui fait du contenu sur YouTube, c'est un YouTuber qui amène des gens extérieurs à YouTube sur YouTube. Parce que le but du YouTube, c'est d'avoir de l'audience. Donc si moi, quand je fais une vidéo, je ramène tous les gens dessus et je leur montre ma vidéo, il va dire, bah tiens, il arrive à ramener des gens. C'est pas que YouTube qui m'amène de l'audience, il faut que moi aussi j'amène de l'audience à YouTube. C'est le paradoxe du truc. Et ils nous paient pas pour ça, mais eux, ils gagnent de l'argent avec ça. Donc, tu dois avoir horreur du vide sur ton contenu, mais ça ne veut pas dire que tu seras obligé de publier tous les jours, ni à la limite, tu peux publier toutes les semaines, etc. Tu peux te dire, bah, je peux faire un truc tous les mois, mais un truc génial. Alors moi, je suis pas trop pour ça, parce que ouais, au bout d'un moment, je pense qu'on tombe dans le... On risque de tomber dans l'oubli de dire, bah, tiens, allez... ce mois-ci, je ne l'ai pas fait. Si vous laissez 2 mois ou des choses comme ça, j'ai entendu sur des émissions de podcast. J'écoutais hier une émission de prof du web qui disait que je voulais absolument faire mon truc en mois de mai, etc. De savoir cet objectif-là, c'est important. Quand on n'a pas d'objectif, des fois, il y a des trucs qu'on laisse tomber. Alors, voilà, moi, il y a un moment donné, je me dis, il faut se foutre un coup de pied au cul et puis publier. Alors, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là quand je me rends compte que j'ai pas publié? Ben, je prends ma liste de contenu, j'ai un petit carnet dans lequel j'ai marqué des dizaines et dizaines d'idées d'articles qui viennent au fur et à mesure, et je prends celle qui me semble la bonne, mais celle aussi qui est celle qui me semble celle que je peux réaliser à l'instant, parce qu'elle est dans mon feeling, dans mon mood, dans ce que j'ai envie de faire tout de suite, quoi. Dans ce que je suis capable de faire, dans ce que j'ai envie de faire et autres. J'ai plein d'idées que je n'ai jamais exploitées, il y a plein d'idées que je n'exploiterai jamais, parce que quelque part, eh ben, elles ne correspondent plus à ce que je veux faire ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est un processus, etc., qui on doit avoir des habitudes, et je suis d'accord avec toi, ce n'est pas si simple. Le cheminement de n'importe quel projet, c'est toujours le même. Au début, un projet, c'est toujours une idée qu'on trouve géniale. On la creuse, et plus on la creuse, plus on se rend compte que c'est difficile, que ça va demander du travail, que peut-être beaucoup plus de travail que prévu, et peut-être même, à un moment donné, tu vas détester avoir eu cette putain d'idée à la con. Moi, j'appelle ça des idées à la con, parce que ça m'est déjà arrivé. Un jour, par exemple, je participais à une réunion, et je sors une idée à la con, et les gens me regardent et me disent « Oh, ça, c'est une idée géniale !» Et donc, il y a plein de gens, quand ils redoutent ce moment-là, parce qu'ils disent « Putain, si je sors une idée à la con, mais qu'en fait, elle s'avère géniale, il va falloir que je la réalise. » Bon. Quand c'est pour votre boulot, quand c'est un boulot qui te plaît pas, etc., je peux comprendre que t'aies pas envie d'avoir cette idée à la con. Si c'est pour toi, et que c'est pour ton blog, ton podcast, ta vidéo, de n'importe quoi, je te demande d'avoir une idée à la con et d'essayer de la creuser jusqu'au bout pour voir jusqu'où elle peut mener. Parce qu'à un moment donné, tu risques de tester cette idée-là. Finalement, tu vas te rendre compte qu'en la développant, c'était peut-être pas si compliqué que ça à faire, et qu'en plus, c'était peut-être pas si mal que ça, et peut-être même que ça valait le coup de le faire. Le pire étant de tout, c'est que s'il y a quelqu'un, à la fin de ton idée à la con, qui vient écouter ton truc et dit « Putain, en fait, c'est génial ce que tu fais », eh ben, tu te trouves super con, quoi. Et alors là, je vais te donner, Lionel, il va se reconnaître, quand il dit « Ouais, je fais un épisode de « J'arrête mon streetcast pour faire ça », etc. » Et c'est toujours à la fin du truc, il y a toujours un mec qui dit « Ah, mais... putain, c'est génial ce que tu fais, j'ai hâte d'avoir le prochain épisode. » Et là, tu te trouves con, quand même. Hein? Bon. Parce que tu te dis, putain, mais en fait, ce que je me disais qui était peut-être moyen, il y avait des gens, en fait, qui s'y sont attachés. Et ça, c'est le risque des idées à la con qu'on creuse. Mais qu'est-ce que vous risquez, quoi? C'est un risque... moi, j'ai envie de dire, ça vaut le coup prendre le risque. Et bon, des fois, donc, on a des idées à la con. Des fois, les idées à la con, quand on n'arrive pas trop à les faire... On s'attraîne. Par exemple, je rédige mes articles avec Ulysse sur Mac et sur comment ça s'appelle, sur mon iPhone, et puis les notes d'émission sur Beer, mais les longs billets de blog, je les relise sur Ulysse. Et dans Ulysse, j'ai environ une dizaine d'idées en attente, des contenus qui ne sont pas des contenus où il y a juste un titre, il y a des contenus où des fois il y a l'équivalent de 2-3 pages de texte. Un exemple, j'ai une idée de contenu sur 40 choses que vous ne savez pas sur moi, qui devait être publié le jour de mes 40 ans. J'ai un autre exemple, j'ai fait un billet sur ma WeThings Activity Pop, ma montre, qu'il faudrait que j'appelle Nokia maintenant, Et ben, ce truc-là, il est stocké depuis 2-3 mois dessus. Et je ne le finis pas. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est la procrastination, mais c'est aussi peut-être une certaine recherche de perfectionnisme. Me dire, tiens, ça serait mieux si j'attendais quelques semaines pour avoir une information, quoi que ce soit, etc. Une certaine insatisfaction sur le contenu ressemble pas tout à fait à ce que j'avais envie de faire, etc. Cet épisode-là, là, que je suis en train de vous faire, et a failli tomber dans les contenus oubliés. J'ai commencé les notes de ça le 21 juin, je vous rappelle. Enfin, je te rappelle. Est-ce que tu as remarqué que j'essaie de tutoyer depuis le début de l'émission, mais que j'y arrive pas? Il y a des contenus qui pourraient être oubliés. Après, j'ai aussi parlé des conditions pour créer certains contenus, des routines qu'on peut se mettre pour se dire, bah tiens, allez, je vais me faire. On peut se foutre un coup de pied au cul, mais on peut aussi se mettre les bonnes conditions pour arriver à ce que le coup de pied au cul serve à quelque chose. Parce que finalement, si vous foutez un coup de pied au cul à une pierre qui est bien attachée au sol, vous aurez mal aux pieds, quoi. Si tu vois l'image de ce que je veux dire. Il faut aussi, pour que le coup de pied au cul soit efficace, que la chose à laquelle, enfin le cul qui va recevoir le coup de pied, ait une capacité de se mouvoir, si j'ai envie de dire. Si ça bouge pas ou quoi que ce soit, il y a au bout d'un moment, vous êtes bloqué. Donc faut aussi te dire, qu'il faudrait que tu te mettes dans les bonnes conditions pour, à un moment donné, bah, si tu remarques que tu travailles, disons, je te donne un exemple. Tu veux faire un billet de blog par semaine. Il faut que tu trouves le moment où ce billet de blog sera le mieux fait. Il y a des gens, par exemple, qui le font tôt le matin, mais c'est comme le sport. Il y a des gens qui vont dire, moi, je vais faire ça le soir, la nuit, à midi, dans les transports, je sais pas quoi. Il faut trouver le moment. Et dans ce cas-là, il faut t'affecter ce moment-là pour faire ce bout de contenu. Quand tu as ce moment-là et que tu as des idées, quand tu mélanges les deux, normalement, tu arrives à faire un contenu. Après, il y a aussi une question de format. Quel est le format dans lequel tu te sens bien, quel est le format que tu arrives à faire, et quel est le format qui correspond au temps que tu as. Par exemple, si ton idée à toi c'est de faire de la vidéo, mais que tu as juste du temps, une heure à la pause déjeuner à midi, je dis pas que tu pourras pas faire ta vidéo. Tu pourrais la monter, par exemple moi je monte mes vidéos sur iPhone, une heure ça me suffit pour monter une vidéo, mais ce qui veut dire qu'avant il faut que je l'ai filmé. Donc il faut que tu aies tourné, il faut que tu aies fait ton tournage, etc. pour faire ton montage, etc. Donc il faut aussi que tu prennes cet élément en considération. Et puis, il y a aussi le est-ce que ça te plaît ou pas. La vidéo, par exemple, c'est pas forcément facile, mais ne serait-ce que de parler à cet objectif-là, ça modifie ton comportement. C'est incroyable comment juste le fait d'appuyer sur le bouton enregistrer modifie le comportement de n'importe qui. J'écoutais l'autre jour des gens sur la radio qui disaient, mais le fait de filmer de la radio fait que ce n'est plus de la radio, quoi. Alors, sauf si tu oublies qu'il y a la caméra, mais l'intimité d'un studio de radio dans lequel il y a juste le micro, les gens qu'on pense qu'ils sont quelque part sans savoir, etc., c'est quelque chose. Et c'est encore différent que l'intimité d'une interview qu'on pourrait faire, etc. Tout à l'heure, je te parlais de mon idée de podcast. Si je fais mon podcast dans un studio type radio, que j'ai pas de toute façon, donc ça marchera pas, c'est une ambiance. Si je vais le faire dans le bureau de la personne, c'est une autre ambiance. Si on va le faire dans la terrasse d'un bar, c'est une autre ambiance. Donc tout ça va jouer sur le contenu que tu vas créer. Et donc on a des. Il faut que tu trouves le moment en fait de trouver un contenu qui va te plaire, que tu as envie de faire, ta passion que tu vas creuser, comment tu vas l'exprimer, comment tu vas t'exprimer toi sur ta passion à toi, dans le format qui te convient bien, au temps qui te convient bien, de la manière qui te convient bien. Et c'est pas une question de format. Je reviens sur l'histoire du streetcast, par exemple. On peut se dire je vais faire un streetcast, mais un streetcast on peut faire sur n'importe quel sujet. Moi je fais du streetcast sur je vais courir à pied, sur les trouvailles que je fais sur internet. Il y en a qui le font sur pourrait faire un streetcast sur la bière, sur l'alcool, pourrait faire un, j'ai entendu ça hier qu'il y a des embouteillages cast, on pourrait faire, voilà, on peut faire plein de choses, mais c'est en fait c'est qu'un format, c'est qu'un sous-format de podcast, c'est pas le sujet. Le sujet c'est pas je vais faire un streetcast. Alors après peut-être certains, peut-être un d'entre vous aurait envie de faire un streetcast sur les streetcasts. Après tout, il y a bien un podcast sur les podcasts. J'ai pas dit le nom, c'est quoi? Podcastor, qui vous permet de découvrir régulièrement des nouveaux podcasts. Donc des gens qui sont chroniqueurs, qui sont invités pour dire le podcast qu'ils aiment bien écouter. Et ben, ça peut être un format, hein, je veux dire, pourrait faire un streetcast sur les streetcasts. Une revue de streetcast. Alors je pense qu'une revue de streetcast en streetcast, c'est pas très facile à faire. Mais Si l'un d'entre vous a envie de se lancer dedans, à la limite, passion streetcast, il n'y a pas de doute hein, là-dessus, on peut foncer là-dessus. Si, pour revenir au streetcast, si le fait de faire ton streetcast en marchant dans la rue te permet de parler d'un sujet mieux, bah marche. Enfin, voilà, j'avais envie de dire que ça. Allez, pour finir sur la motivation. Hier, je suis aussi tombé sur un billet de Léo Babota. Alors, Léo Babota, c'est Zen Habit, ses compagnies, c'est le gars qui a 5, 6, 7, 8 gamins, j'en sais rien, qui est zen, qui est minimaliste, qui est, fait du sport, etc. Enfin bref, qui a sorti des bouquins. Il y a beaucoup de ses bouquins, ils sont traduits par Olivier Roland d'ailleurs, qui en a fait beaucoup de traductions, d'adaptations des billets de blog, etc. Il a sorti son dernier billet, s'appelle Mini Mission, qui est un billet qui se lit très vite, hein, c'est en anglais, mais vous pouvez le lire, en 3 minutes il est lu. Et son truc à lui, c'est de se dire, vous fixez chaque jour 3 petites missions pour lutter contre procrastination. Il dit, c'est des 15 minutes. Il dit que ça peut aller 20 à 30, mais 15 minutes, c'est facile à caler, quoi. Une mission de 15 minutes, c'est pas une grande mission, mais c'est une belle mission. Surtout que c'est valorisant si vous avez de la chance de le faire. Et comme vous avez plus de chances d'y arriver, ce sera d'autant plus valorisant. Et donc, ça fixe un délai et une limite. Rappelle-toi ce que j'ai dit sur la loi de Parkinson. Et donc, dans son billet, il donne 3 missions, exemple, qui pourraient être les siennes. Mais ça pourrait être les miennes. Faire un billet de blog, faire du sport, faire une vidéo. Et bien ça, c'est aujourd'hui mes 3 missions à moi. Je rajoute faire du podcast. Mais c'est exactement mes missions du jour. Et ça peut être tes missions à toi du jour. Alors, si tu fais 3 fois 15, ça fait 45 minutes. Bon, faire une vidéo en 15 minutes. Si c'est une vidéo face caméra, etc. Si c'est un petit live, moi je dis c'est jouable. Si c'est un billet de blog, faut voir la durée, la longueur du billet de blog, etc. Mais si c'est un bout de billet de blog, et si tu mets 20-30 minutes, ça peut être jouable aussi. Moi, dans mon journal, tous les jours, je marque 3 grands objectifs du jour qui feront que c'est un jour réussi. Et bien, les 3 grands trucs, les mini-missions de Léo Babota sont exactement mes 3 grands objectifs. Alors, des fois, mes objectifs, ils font plus d'un quart d'heure à minute. En tant que créateur de contenu, je pourrais te suggérer de dire, bah, applique la truc de mini-mission d'Eléo Babota, son conseil, et fixe-toi, par exemple, tu dis, bah, aujourd'hui, c'est un cas que j'ai entendu, hein, je crois que c'est Ch'ti Grenoble hein, qui dit ça, qu'il n'a pas eu le temps dans lancer son streetcast, etc. Si t'as qu'un quart d'heure dans ta journée pour faire un peu d'audio, etc., ça suffit un quart d'heure pour faire un épisode de podcast. Vous n'êtes pas obligé de faire 56 minutes comme je suis en train de faire. Enfin, là, ça durerait plus que 56. Hein. Mais on peut très bien faire un épisode qui fait 5 ou 9 minutes. À la limite, si tu veux mettre une contrainte, tu l'enregistres sur Opinion, sur la version gratuite, à 9 minutes, il te coupe. Si tu veux faire encore plus court, tu le fais sur Snapchat. En quelques trucs, ça va te couper, ça va être tellement chiant que tu seras obligé de couper. Bref, là, vous avez compris, ou tu as compris plutôt ce que j'essaie de te dire, c'est que ce genre de petite mission t'apporte aussi un moyen de trouver de la régularité. Si 3 fois dans la semaine, tu te fixes une mission de faire une petite vidéo, un petit billet de podcast, un petit je sais pas quoi, quelque part, tu as la régularité, tu as 3 contenus dans ta semaine. Et si tu me dis j'ai pas d'idée, je te dis ben, prends un carnet, un Evernote, un Beer, un je sais pas quoi, un Moleskine, le carnet qui te plaît, note tes idées. Et donc le jour où tu as tes 15 minutes, tu prends tes 15 minutes tout sur ton carnet, et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends une idée, tu la développes. Alors, tu vas me dire, oui, mais il faut peut-être que j'y réfléchisse avant. Eh ben, la magie des choses, c'est que le fait de mettre ça dans ton carnet, de noter ça, fait que l'idée va te trotter dans la tête. J'ai dit, j'ai commencé ce podcast le 21 juin. Depuis le 21 juin, il y a des trucs qui me trottent dans la tête. J'ajoute des contenus, je modifie, il y a des rebonds, etc. Il y a même des parties de cet épisode de podcast qui sont devenues des épisodes tout seuls de podcast, en fait. Parce que ça m'a donné des idées pour compléter. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Alors bien sûr, là je me suis concentré sur cette histoire de contenu, de publie du contenu, donne-toi de la régularité, motive-toi, déteste le vide que tu laisses quand tu ne publies rien, etc. Mais je suis d'accord quand même qu'au bout d'un moment, il faut partager. Et je rappelle donc la grande recette du secret pour être vu sur Internet. La première, c'est de faire du bon travail. La deuxième, c'est de le diffuser. Faire du bon travail, je l'ai dit, on en a parlé, c'est ce que je viens de dire là. S'exercer tous les jours, très régulièrement. Au départ, c'est bon, c'est mauvais. sincèrement, au départ, on rate ce qu'on va faire, etc. Moi, il y a un truc que j'aime... Je fais pas un truc, c'est que quand mon épisode... Alors, sauf s'il est vraiment raté de raté, où là, je le re-enregistre, je crois que mon streetcast, je n'ai enregistré qu'un épisode. Sur le podcast, ici, je n'ai enregistré une fois, j'ai fait un lancement, au bout de 2 minutes, j'ai dit « Oh putain, mais qu'est-ce que tu racontes, c'est une merde !» Et donc, là, j'ai coupé, je suis reparti. Mais sinon, je n'ai jamais trappé, enfin foutu à la poubelle, le moindre contenu. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des surprises. Diffuser un contenu, c'est assez simple. Il suffit, on le met sur Internet, et ensuite, on essaye de le diffuser, etc. Donc, j'ai déjà dit après comment on pouvait essayer de le maximiser en diffusion, etc. Mais, du moment qu'on le diffuse, s'il y a des gens qui l'écoutent, on n'est pas à l'abri, ce que je disais tout à l'heure, d'une bonne surprise. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Du moment que ce contenu-là, tu le trouves satisfaisant sur le plan de ce que tu racontes, s'il correspond à ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu avais envie de dire, etc., c'est pas parce que le son est un peu merdique qu'il faut le foutre à la poubelle. Le pire, c'est que je suis pas certain qu'en refaisant ce contenu-là une autre fois, tu sois capable de redire la première chose. Moi, je suis incapable de le refaire. Je vais te donner un exemple. Des fois, je fais des conférences, on me demande de faire des conférences sur sujet Facebook, etc. Et des fois, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois. Là, il y a une année, j'ai fait 8 fois la même conférence. Je la faisais 2 fois par département d'Auvergne. Il y a 4 départements, vous avez compris le problème. Et ben, un jour, j'ai fait la première conférence. Putain, j'en sors, mais elle avait roulé nickel. Et ben, la deuxième, la troisième et la quatrième n'ont jamais été comme la première. Mais c'est comme la recherche du bonheur, quoi. La première, des fois, c'est le truc parfait. Et c'est pour ça que je dis, des fois, on balance un truc en disant, ouais, bon, c'est pas terrible, je vais le refaire. Et ben, regarde dans ce cas-là si ta deuxième tentative est meilleure que la première. Avant de balancer ta première, si je veux bien que tu refasses une deuxième, mais garde la première en stock et dis-toi que finalement, la première, réécoute-la et tu te rendras compte peut-être que la première était moins bonne techniquement, moins belle, moins chiadée, moins organisée sur des choses, mais qu'en fait, la première, peut-être, c'est toi. C'est vraiment ton toi à toi qui parle et qui est vraiment ta passion, etc. Pour conclure tout ça dans mon idée de motivation, je voulais finir par te dire que il y a une question dans ce que tu montres, parce que je t'ai dit que tu pouvais parler de tes passions, etc., mais t'es pas obligé de parler de tout, t'es pas obligé de montrer toutes tes passions, tes trucs, astuces, etc. Moi je pense que tu peux montrer assez facilement ce qui te permet d'avancer. Tu peux montrer tes essais, tu peux montrer tes tentatives. Alors tu peux trouver des moyens de le faire. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je vais publier un bout de son, mon échauffement vocal, etc. Tu peux trouver des systèmes comme ça. Tu peux aussi montrer ce qui t'inspire. Pour ça que la curation est un truc tellement intéressant. Si quelqu'un a fait un super truc sur le même sujet que toi, t'es pas obligé de te dire, je vais refaire le même truc que lui, parce que je vais publier que ce que moi je fais. Enfin, fais passer le message. La curation marche très bien là-dedans, etc. Il est facile de partager ça sur Twitter, sur un blog, sur une newsletter, etc. Je te parlerai demain dans mon outil que j'utilise pour les newsletters, enfin demain ou d'ici la fin de la semaine. N'oublie pas surtout que c'est toi qui gardes le contrôle, enfin voilà. C'est toi qui as le bouton publier sous la main. Donc, à un moment donné, c'est une fois que tu sais ce quoi tu vas dire, etc., t'es pas obligé de tout dire. T'es pas obligé non plus de faire un super contenu tous les jours. C'est pas facile de faire un super contenu tous les jours. Et à un moment donné, on n'y arrive pas. Il y a un moment donné, on a juste envie de garder le contact, etc. Rappelle-toi sur ce que je t'ai dit sur Gary Vaynerchuk, les petits bouts de contact, etc. Jab, 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 right hook. Des fois, je le dis sans problème, sur le streetcast, j'ai envie de dire un bonjour. J'ai envie juste de raconter un truc. Et qu'est-ce que je fais? J'appuie sur mon bouton, je me dis, tiens, je vais leur dire bonjour aux gens, et puis je leur raconterai 2-3 anecdotes, et je terminerai. C'est juste... C'est aussi ça, enfin voilà, la publication de contenu, c'est aussi ce genre de truc-là. C'est oser. Parce que le premier billet, par exemple, si on fait un podcast ou un blog, on se présente. Mais le deuxième, troisième, etc. Des fois, on a juste envie de balancer une petite information, un truc rigolo, un truc amusant, une photo un petit peu déconnante ou quoi que ce soit. Mais si ça reste quelque chose qui soit. C'est peut-être pas terrible. C'est peut-être pas. Je veux dire, techniquement, ça vous plaît peut-être pas. L'autre jour, j'ai mis moi sur ma story Instagram une photo de moi avec ma casquette sur la tête en train de manger de la glace. Mais bizarrement, cette photo-là, elle fait marrer les gens. Il y a des gens, j'ai eu des réactions et tout. Quand je mets ce genre de contenu, il y a des gens. J'ai eu un message l'autre jour, quelqu'un qui m'a dit « Tiens, bravo pour ta bonne humeur, etc. » quoi. Mais Pourquoi ils voient ma bonne humeur? Ben, tout simplement parce que quelque part, je mets ce genre de photos, quoi. Elles sont pas. Elle est pas belle, elle est pas chiadée et tout, mais hier j'ai montré en vrai à des gens, enfin en vrai, sur mon iPhone à des gens qui étaient, sont venus manger à la maison, ça les a fait rigoler. Et donc, il y a dans ces petits moments, dans ces trucs que tu vas partager à côté, des fois une étincelle, un petit truc inconnu, quelque chose qui peut toucher les gens, qui va les faire sourire, qui va montrer que t'es juste réel, que t'es juste toi, que t'as tes passions, etc. Et donc, ça va renforcer le sentiment qu'il y a entre toi et eux, ce sentiment de te lire, d'écouter, de dire que finalement, tu fais partie d'un petit peu de leur, pas de leur famille, mais de leur truc, de leurs habitudes peut-être. Ils prennent l'habitude de t'écouter, de te lire. Tu leur manques de temps en temps peut-être, je sais pas. Du moment que tu es capable d'assumer ce que tu vas publier, je pense que ça vaut le coup de dire que des fois, ça vaut le coup de pas te limiter et d'appuyer sur le bouton publier. Voilà. Et tu te rappelles bien sûr que c'est toi qui as le contrôle du fameux bouton publier. Mais ce contrôle du bouton publier ne marche que si tu l'utilises. Et si tu appuies des fois sur le bouton publier, tu pourras aussi des fois te dire que finalement, tu peux ne pas publier aussi certaines choses. Voilà donc. C'était la réflexion, la fin de ma réflexion sur ce sujet-là. J'espère que j'ai atteint mon but. De vous montrer, de te montrer un petit peu comment chemine un petit peu les choses, quelle est ma vision de toutes ces choses-là, etc. C'est, contrairement à d'autres épisodes, j'ai pas d'objectif, enfin, j'ai un objectif, mais j'ai du mal à le tourner, mais je pense que c'était important aussi de dire, voilà, moi ça fait 20 ans que je fais du contenu, il y a toujours des doutes, il y a des fois des trucs qui restent à la poubelle, il y a des trucs qui restent dans des cartons, il y a des choses que je n'ose pas publier, il y a des questions que je me suis posées, il y a des trucs qui me paraissent maintenant logiques mais qui ne l'étaient pas il y a quelques temps et qui, peut-être que ce qui me paraît logique maintenant ne le sera pas dans quelques temps, etc. Mais c'est ça, c'est notre cheminement, c'est notre évolution. Et plus on en fait, plus on crée du contenu, plus on évolue, plus on a de chance de le faire, plus on a une passion, plus on la creuse. Et plus on en fait, plus on a envie d'en faire un petit peu plus, de pousser un petit peu plus, de tester un petit peu plus les choses. Voilà. C'était la réflexion de mon côté. Je te l'avoue, je suis impatient de savoir quelle est ta réflexion à toi de ton côté par rapport à ces sujets-là, où tu en es, ce que tu fais, etc. N'hésite pas à me partager tes liens vers tes contenus que tu crées sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur n'importe où. N'hésite pas à me montrer ce que tu fais. Je rappelle que j'ai créé un groupe pour s'entraider les uns les autres, pour discuter là-dessus. Le club des créateurs de contenu, le lien est dans les notes de l'émission. Et je te dis à demain. Ciao, ciao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.